Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série L'ascension du vainqueur et son triomphe. Le titre de notre étude aujourd'hui, c'est La nouvelle Jérusalem. C'est l'étude numéro 33. La nouvelle Jérusalem. Chers amis, nous arrivons à la fin de l'histoire des, on peut dire, cette histoire, c'est en quelque sorte l'apothéose. La nouvelle Jérusalem descend du ciel et devient la capitale de la terre. La Jérusalem céleste, l'original donc de la Jérusalem terrestre, devient la nouvelle Jérusalem. Il faut distinguer Jérusalem céleste et nouvelle Jérusalem. Les deux qualifications désignent la même cité et finalement les mêmes habitants. Mais la Jérusalem céleste, c'est la cité de Dieu dans les cieux. Je dis bien, c'est la cité de Dieu dans les cieux jusqu'à la glorification de l'univers. Hébreux chapitre 12, verset 22 et Galates chapitre 4, verset 26. La nouvelle Jérusalem est décrite en contraste avec l'ancienne Jérusalem en Israël. Elle est le but et l'aboutissement de cette dernière glorifiée et rendue parfaite sur la nouvelle terre. Révélation, donc Apocalypse chapitre 3, verset 12 et chapitre 21. Verset 2. C'est comme nouvelle Jérusalem que la Jérusalem céleste descend sur la terre. Du désert, Jean a vu la grande Babylone. Il a vu la prostituée, Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 3. Et cela d'une grande et haute montagne. Il a vu la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse. Apocalypse chapitre 21, verset 8, non, verset 9. Je répète, Apocalypse chapitre 21, verset 9 et 10. Il est toujours difficile d'essayer de ne jamais se tromper d'une indication biblique, parce qu'il y en a tellement toujours, et je tiens à ce que vous puissiez vérifier ce qu'on vous dit. Donc, la Bible la désigne en trois tableaux. D'abord, la Nouvelle Jérusalem venant du ciel, Apocalypse 21, versets 9 à 27, le temple parfait, Apocalypse 21, verset 22. Le paradis glorifié, Apocalypse 22, verset 1 à 5. La première peinture met en évidence tout d'abord sa gloire, ses fondations, sa muraille, ses portes, ses habitants, sa vie municipale et ses proportions. Nous commençons donc par, premièrement, la gloire de la ville. La gloire, c'est la sainteté manifestée. La sainteté est l'âme de la véritable beauté. La beauté n'est beauté que lorsqu'elle est le reflet de la vérité. C'est pourquoi Jérusalem est glorieuse, vraiment glorieuse. Et vous pouvez noter Psaume, chapitre 87, verset 3, « Pour cela qu'elle brille de l'éclat de l'or céleste. » C'est pour cela qu'elle est pareille à un palais de cristal transparent et radieux. Apocalypse 21, verset 18, et le verset 21, et ajouter les versets 23 et 24. C'est donc la cité de la perfection, la sainte cité toute illuminée et pénétrée de la présence de Dieu. Apocalypse 21, versets 3 et 27. La description biblique s'émaillera des couleurs magnifiques les plus glorieuses, empruntant à la terre ses éléments les plus précieux, or, perles, pierres rares. C'est comme une prophétie des choses les plus sublimes du ciel, l'original de toute splendeur. Des rues d'or, fondations de pierres précieuses, portes de perles, murs de jaspe, rivières de cristal, ainsi apparaît dans son symbole la cité transfigurée où tout doit habiter une humanité sainte. En effet, là habitera uniquement une humanité sainte, une humanité rachetée sous l'éclat glorieux du Dieu de sainteté. Apocalypse 21, versets 23 à 27. Deuxièmement, nous avons les fondations de la cité. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et les fondements étaient ornés de 12 pierres précieuses, jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe et améthyste. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 14 et les versets 19 à 20. Vous pouvez ajouter Exode, chapitre 28, verset 15 à 20. Pourquoi un tel fondement et pourquoi les noms des 12 apôtres? L'agneau est le fondement de la céleste cité. C'est lui qui fut crucifié par l'ancienne Jérusalem. Et la couronne, il est la couronne de la nouvelle ville. Le message apostolique de l'agneau est le fondement de toute gloire céleste. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Dans sa description de la nouvelle Jérusalem, Jean cite 7 fois l'agneau. Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. C'est littéralement « petit agneau », mot qui se retrouve en tout 29 fois dans le livre de l'Apocalypse. L'auteur, par là, met en contraste l'apparente faiblesse du crucifié et sa victoire décisive. Il présente l'agneau comme le fondement, les noms, des 12 apôtres de l'agneau sont sur le fondement. Apocalypse, chapitre 21, verset 14. Et il le présente comme le critérium. Il n'entre dans la ville que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. chapitre 21, verset 27. Il présente l'agneau comme la source de vie. La rivière de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1. Il présente l'agneau comme la lumière. L'agneau est son soleil, semblable à du jaspe aussi clair que du cristal. Apocalypse 21, verset 23 et le verset 11. Ésaïe, chapitre 60, verset 19. Il présente l'agneau comme le bien-aimé. La ville et la femme de l'agneau préparée comme une épouse pour son époux. Toujours Apocalypse, chapitre 21, verset 9 et le verset 2. Il présente l'agneau comme le temple. C'est le Tout-Puissant et l'agneau, c'est donc son temple. C'est pourquoi il n'y a point de temple en elle. C'est l'agneau qui est le temple. Chapitre 21, verset 22. Il présente l'agneau comme le roi. Le trône de Dieu et de l'agneau est dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils serviront l'agneau. Apocalypse chapitre 22 verset 3. Troisièmement, nous avons la muraille de jaspe. Elle avait une grande et haute muraille, et il mesura la muraille et trouva 144 coudées environ 75 mètres, mesure d'homme qui était aussi celle de l'ange. Apocalypse chapitre 21 verset 12 et verset 17. La muraille est grande et haute, environ 75 mètres. Ces chiffres doivent sans doute être pris comme symboliques et du point de vue des conditions existantes au temps de l'apôtre. Dans cette optique, on peut y discerner l'indication selon laquelle la muraille ne saurait être franchie par aucun effort humain. Dans la Jérusalem céleste, nul n'a accès par l'effort ou le progrès humain. Elle n'est pas le fruit d'une culture ascendante ou d'une escalade de l'esprit. Le mur est trop haut. Il faut entrer par les portes de perles qui sont gardées par les anges et auxquelles seuls les rachetés ont accès. Et pourtant, comparée à la cité elle-même, la muraille est petite, 144 coudées sur 12 000 stades, c'est-à-dire 75 mètres au plus sur environ 2300 kilomètres, chiffre symbolique, rappelons-le. C'est que le Seigneur, c'est lui la muraille. Zacharie, chapitre 2, verset 5, et Psaume, chapitre 125, verset 2, à son ombre, Jérusalem repose en sécurité, habitée comme une ville ouverte. Zacharie, chapitre 2, verset 4. Ses portes ouvertes tout le jour. Apocalypse 21, verset 25. Entre la muraille, salut, et la forteresse, le roc d'éternité. Vous avez compris, entre la muraille, il y a le salut, et la forteresse, c'est le roc d'éternité. Les rachetés, donc, ils habiteront en sécurité. Ésaïe 26, versets 1 à 4, et le psaume 122, verset 7. La muraille était de jaspe translucide. Ainsi, la lumière de la gloire pouvait la traverser. La nouvelle Jérusalem irradie sa lumière partout. Elle ne la retient pas, car la gloire divine est destinée à tous. Les peuples marchent ainsi dans la lumière de la cité et tous y apportent leur gloire. Chapitre 21, verset 24. Je le répète, les peuples marchent ainsi dans la lumière. Ils marchent dans la cité et tous y apportent leur gloire. La cité dont l'agneau est le soleil, chapitre 21, verset 23, devient elle-même un soleil. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 14. La muraille compte 12 000 stades de chaque côté, donc 2300 kilomètres, soit plus de 9000 kilomètres de long, tout en jaspe, sur 75 mètres de haut. Que sont tous les bijoux de la terre comparés à cela? Le plus grand de tous les diamants actuellement connus, celui de Bornéo, pèse 367 carats, donc 77 grammes. Kroll Inor, montagne de lumière, fut fameux pendant de longs siècles. Il est maintenant parmi les joyaux de la couronne britannique. Il pèse 106 carats, donc 21 grammes. Or ici, c'est une muraille de pierre précieuse d'une longueur de 9000 kilomètres, c'est tout autre chose. Toute de jaspe cristallin. Vraiment, toutes les choses terrestres pâlissent devant les célestes et deviennent insignifiantes et pratiquement nulles. En effet, c'est la gloire présente autant que les souffrances qui n'a rien de comparable à la gloire qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8, verset 18. C'est pourquoi, dit le Seigneur, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Ésaïe 54, versets 11 et 12. Quatrièmement, nous avons les portes de perles. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, et les 12 portes étaient 12 perles, chacune était d'une seule perle. Apocalypse chapitre 21, versets 12 et 21. La perle est un symbole de rédemption. Elle est le résultat d'une sécrétion spéciale de l'huître en réaction contre une blessure extérieure ou contre l'intrusion d'un objet inanimé, filament d'algues, gale d'eau. C'est donc la réponse d'une vie blessée à la plaie extérieure. De même, la réponse du Rédempteur à la blessure du péché à Golgotha, ce sont, premièrement, des portes ouvertes. C'est là l'œuvre de la croix. Saint Jean chapitre 1 verset 51, Actes chapitre 7 verset 55 et 56, Ésaïe chapitre 26 verset 2 et chapitre 60 verset 11, et notez encore le psaume chapitre 100 verset 4. Deuxièmement, nous avons des portes aux quatre coins des cieux. Vers chacun des quatre côtés de la terre étaient trois portes, car la gloire divine est destinée au monde entier et le salut est pour tous. Apocalypse 21, verset 13, Ésaïe 45, verset 22, et chapitre 43, verset 5 à 7, et Ézéchiel, chapitre 48, verset 30 à 35. Troisièmement, il y a des portes ayant le doux éclat de perles et non le trait étincelant du diamant, car ce sont des portes de grâce. Saint Matthieu 11, verset 28 à 30, et Éphésiens, chapitre 2, verset 5 et verset 7 et 8. Quatrièmement, nous avons des portes réservées au peuple de Dieu. Leur nombre est 12. Apocalypse 21, versets 13 et 27. C'est le nombre du peuple de Dieu. Cinquièmement, nous avons des portes placées sous la garde sainte des anges. Apocalypse chapitre 21, verset 12. Psaume 34, verset 7, et Ésaïe, chapitre 62, verset 6. En contraste béni avec la garde des chérubins aux portes du paradis perdu, Genèse, chapitre 3, verset 24. Sixièmement, nous avons des portes marquées au nom des 12 tribus d'Israël, parce que le salut vient des Juifs, Saint Jean, chapitre 4, verset 22, et Romains, chapitre 11, verset 18, et que Abraham est le père de tous les croyants, celui-là seul qui est entré par la porte messianique pourra franchir la porte de perles. Or Jésus-Christ, le fils de David, selon Saint Jean chapitre 4 verset 9 et Saint Matthieu chapitre 1 verset 1, a dit « Je suis la porte ». Je répète, Jésus-Christ, le fils de David, a dit « Je suis la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Celui-là seul qui entre par la porte étroite et s'assure une libre entrée dans le royaume des cieux, la porte de perles s'ouvrira uniquement pour celui qui aura trouvé la perle de grand prix. Saint Matthieu 13, verset 46. Cinquièmement, nous avons les habitants de la cité. Qui habite la cité? Premièrement, Dieu est l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Apocalypse 22, verset 1 et 3. Voici le tabernacle de Dieu et il est avec les hommes. Chapitre 21, verset 3. Deuxièmement, des myriades d'anges. Vous êtes venus à la montagne de Sion et la cité du Dieu vivant. Vous êtes venus à la Jérusalem céleste et à des myriades d'anges. Là, il y a l'assemblée universelle. Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23 et Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 12. Troisièmement, les rachetés d'Israël. Les noms des 12 tribus sont sur les portes. Apocalypse 21, verset 12. Dans la nouvelle Jérusalem habite le résidu. Romains 11, versets 4 et 5. Et Apocalypse, chapitre 7, versets 3 à 8. Et les croyants de l'Ancien Testament, ils y habitent dans la nouvelle Jérusalem. Notez Hébreux, chapitre 11, verset 40. Et Galates, chapitre 3, versets 9 et 14. C'est donc la cité d'Abraham que Abraham attendait, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux, chapitre 11, verset 10. C'est la cité en vue de laquelle les justes consommés, c'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament, apprirent à se considérer ici-bas comme étrangers et voyageurs. Notez Hébreux chapitre 12, verset 23 et Hébreux 11, verset 13. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'eux. Il n'a pas honte d'eux d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Hébreux chapitre 11, verset 16. Quatrièmement, nous avons les appelés de tous les peuples, membres de l'Église universelle. La Nouvelle Jérusalem est la mère de nous tous. Galates chapitre 4, verset 26. Nous aussi, nous sommes venus à Jérusalem céleste. À la Jérusalem céleste, nous sommes venus, selon Hébreux chapitre 12, verset 22 et 23. Elle est pour nous aussi. Elle est pour nous la cité attendue. Oui, la cité à venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Dont le nom sera écrit sur tous les vainqueurs. Apocalypse 3, verset 12. Quatrièmement, nous avons la vie dans la cité. Ils sont tous là, les rachetés de tous les temps sont là, les prophètes et les apôtres, les martyrs et les témoins, oui, tous ceux qui, de manière diverse, en leurs différents lieux et circonstances, ont recherché Dieu et se courbèrent à sa volonté. Il joue maintenant de la harpe des palmes à la main. Apocalypse 7, verset 9 et chapitre 15, verset 2. Couronné d'or. Apocalypse 4, verset 4. Et ils sont vêtus de robes blanches. Apocalypse 7, verset 9. Ils sont parés d'habits de mariage. Apocalypse 19, verset 8. Ils chantent des cantiques devant le trône de l'agneau et le servent. Saints, ils le contemplent. Prêtres, oui, ce sont des saints. Apocalypse 15, verset 3, chapitre 5, verset 10. Ils l'adorent et ils lui chantent une louange éternelle. Lui-même est là, il est là au milieu d'eux. Il est le soleil resplendissant. Apocalypse 21, verset 3. Il est le centre de l'univers. Il est le ciel du ciel. Oui, vraiment, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Psaume 126, versets 1 et 2. Chers amis, je m'excuse de tout le bruit qui se fait en dehors des fenêtres, car ils ouvrent la route, ils mettent des nouveaux tuyaux, des câbles pour tout le système Internet et tout ce que les gens désirent. Et donc, il y en a pour des mois de travaux. il faut que je me lève à maximum, pas plus tard que 6 heures du matin, pour faire ces études, si je ne veux pas avoir tout ce bruit. Alors je m'en excuse, puisque ce matin, malheureusement, je me suis levé un peu plus tard. Donc je continue. Nous verrons ainsi les rues d'or. Ah ! Nous verrons les fondements de joyaux. Nous verrons les portes de perles, la rivière de cristal. Apocalypse 22, verset 1. Nous verrons les myriades d'anges, les saints qui nous ont précédés, les justes consommés, tous ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Hébreux 12, verset 23 et Apocalypse 7, verset 14. Alors nous verrons le roi dans sa beauté. Nous verrons l'agneau qui a été immolé. Nous verrons le vainqueur de Golgotha. Ésaïe 33, verset 17 et Apocalypse chapitre 5, verset 5 à 10. C'est là la Jérusalem, c'est là le but de la rédemption, attente de toute l'humanité. C'est l'héritage réservé aux saints dans le ciel. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, Colossiens, chapitre 1, verset 5, et Saint Matthieu, chapitre 5, verset 12. Donc, premièrement, nous avons une marche sainte au soleil de Dieu. L'or est comme l'image visible du soleil. Le chemin est l'image de la marche. C'est le mouvement et l'activité de la vie. Les chemins d'or sont donc comme un symbole de l'activité sainte, spirituelle à la lumière de l'éternité, la marche sainte dans la clarté de la perfection. Deuxièmement, une harmonieuse diversité. Chacun brille, chacun pourtant brille d'une manière différente. Chacune des 12 fondations est ornée d'un joyau, mais chacune d'un joyau différent. Apocalypse 21, verset 19 à 20. Sur les portes de perles sont inscrits 12 noms différents. Chapitre 21, verset 12. Et sur les 12 fondements sont inscrits 12 noms différents. Le royaume de Dieu, dans sa perfection, glorifie toute la diversité de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est ce que montrent les noms des tribus et les noms des apôtres inscrits sur les portes d'une part, sur les fondations d'autre part. Ainsi, la rédemption n'est pas la suppression, mais la transfiguration de la personnalité. De là, l'image d'une cité au sens idéal. Une cité, en effet, n'est pas une masse indistincte de personnes, mais une communauté de membres, un organisme harmonieux, multiplicité dans l'unité, mise en commun des forces individuelles en vue d'une énergie plus grande. Troisièmement, nous avons une harmonieuse béatitude, car en dépit de cette diversité règne une merveilleuse unité. La cité de Dieu est la cité de la paix, en appelant son lieu Jérusalem, nom de la ville à l'époque canaano-égyptienne, vers 1300 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire cité ou forteresse de paix. Le prince oriental de ce temps était inspiré de Dieu sans le savoir. Depuis lors, par son seul nom déjà, Jérusalem fut, à travers les siècles, une vivante prophétie de la cité de paix qui est dans le ciel. Une importante question maintenant. Nous reconnaîtrons-nous mutuellement? Il y a beaucoup de chrétiens qui nous demandent une telle question. Eh bien, sans aucun doute. Nous nous connaissons ici, nous ne serons certainement pas plus ignorants dans le ciel que nous le sommes ici-bas, voyons. L'homme riche, rappelez-vous, dans son tourment même, ne reconnut-il pas Abraham? Pourtant, il ne le connaissait pas du tout, ne l'avait jamais vu. Saint Luc, chapitre 16, verset 23. L'apôtre Pierre, sur la montagne de la Transfiguration, ne reconnut-il pas Moïse et Élie, qu'il n'avait pourtant jamais vu? Saint Matthieu, chapitre 17, verset 3 et 4. Non, 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 nous ne serons pas au ciel pareils à des hiéroglyphes errants. Chacun reconnaîtra l'autre, regardera dans le fond même de son âme. Dans un certain sens, c'est là que, pour la première fois, nous nous verrons réellement. Ici-bas, personne n'a jamais vraiment vu son compagnon. Ce que nous appelons ainsi ne peut s'accomplir qu'à travers les portes du corps, les yeux, l'ouïe, le toucher, car là-haut, il y aura une perception d'esprit à esprit. Il n'y aura plus d'évasion possible, mais bien plutôt une merveilleuse transparence, tout étant devenu clair comme de l'or transparent, les personnalités étant pareilles au cristal le plus pur. Quelle joie que cette communion possible avec tous les saints qui nous sont précédés, avec Abraham et Moïse, Élie et Ésaïe, Jean et Pierre, Augustin et Luther, avec tous les grands et les petits des années, on peut dire tous qui sont du royaume de Dieu. Alors, merveilleuse communion d'esprit avec tous ceux dont les noms sont écrits dans le ciel. Philippiens 4, verset 3 et Saint Luc 10, verset 20. Il y aura donc une sainte adoration. Voyez-vous, la gloire des saints dans le ciel, elle s'exprime en relation avec la majesté de Dieu. Et il y aura une adoration en une sainte adoration, vraiment. Apocalypse 7, verset 9 et 10, chapitre 15, verset 2 à 4, et cela en relation avec sa nature. Il y aura une sainte adoration en la conformité à l'image de son Fils. Apocalypse 22, verset 4 et Romains 8, verset 29. Et cela en relation avec son royaume. Il y aura une sainte adoration en ce qu'il règne avec Christ. Apocalypse 22, verset 5. Et par-dessus tout, il y aura la bénédiction centrale commune à tous, c'est qu'ils verront la face de Dieu. Heureux donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Saint Matthieu 5, verset 8, Apocalypse 22, verset 4, premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Tes yeux, ils verront le roi dans sa beauté. Ésaïe 33, verset 17. Car Jésus-Christ le Sauveur, il est le libérateur, et le voir lui, l'agneau de Dieu, avec les marques de ses blessures, Apocalypse 5, verset 6, ça sera là la béatitude des béatitudes, ce sera le ciel de tous les cieux. Et septièmement, nous avons la grandeur de la cité. Oui, la Sainte Bible dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Saint Jean, chapitre 14, verset 2. Dans le ciel, il y a la place pour tous. Ceci ressort des mesures indiquées pour la Nouvelle Jérusalem. 12 000 stades de long, 12 000 de large, 12 000 de haut. Donc, la Nouvelle Jérusalem aurait ainsi un volume de 12 000 millions de kilomètres cubes en tout. Toutes les constructions du monde villes, villages et hameaux ensemble, avec leurs 2 000 000 000 d'hommes, ne feraient pas 1 200 km³. Il y a donc place dans la Jérusalem céleste pour des centaines de milliers de générations. Les nombres ici n'ont pourtant qu'une portée symbolique. Ce qui doit retenir l'attention, c'est l'étendue colossale et la signification du chiffre 12. L'apôtre souligne que la mesure de l'ange est une mesure d'homme, selon Apocalypse 21, verset 17. Il semble bien que cela veuille dire qu'il s'agit ici d'un langage spécial où les mesures et les formes humaines ont pour seul but de rendre l'infini perceptible à la conscience de l'esprit fini. L'Éternel lui-même est inconcevable, il est supraterrestre. La réalité de sa substance ne signifie pas la littéralité verbale des mesures, bien que l'incarnation de l'esprit soit effective, sa présentation emprunte des formes figuratives et allégoriques. Cela explique les changements dans la manifestation de l'inchangeable. L'ange de l'Éternel, par exemple, apparaît tantôt comme une flamme, Exode vers chapitre 3, verset 2, tantôt comme une voix, selon 1 Samuel, chapitre 3, verset 2 à 9, et tantôt sous un aspect de lumière, ou comme simplement un simple homme, Genèse chapitre 18, verset 1 à 8. Ceci est vrai des anges en général, Daniel chapitre 10, verset 4 à 6, et Hébreux chapitre 13, verset 2, ou du chérubin qui se présente ici avec quatre ailes, Ézéchiel 1, verset 6, là il se présente avec six ailes, Apocalypse 4, verset 8, ici avec quatre faces, Ésaïe, c'est-à-dire Ézéchiel, chapitre 1, verset 6 et 10, et là avec une face, Apocalypse 4, verset 7. Donc, il n'y a là aucune contradiction, mais nous pouvons y voir la preuve de ce que la présentation prophétique du spirituel est symbolique et l'indication d'une matière céleste susceptible de changer de forme d'esprit et demeurant libre dans son corps spirituel. Et dès qu'il s'agit de choses qui n'appartiennent plus à notre présente création, la Sainte Bible ne prétend pas donner une description littérale. L'essentiel n'est pas la forme ou le symbole, mais c'est l'ultime et l'essence qui y sont contenues. Le nombre dominant est 12 et il y a 12 fondements, 12 pierres précieuses, 12 noms d'apôtres, 12 portes, 12 anges, 12 inscriptions sur les portes. La hauteur de la muraille est de 144 coudées, 12 fois 12, et la cité mesure 12 000 stades de chaque côté. Pourquoi ce nombre précis? Partout, absolument partout, il apparaît que 3 est le nombre de Dieu, tandis que 4 est le nombre du monde. 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 dimensions selon l'ancienne conception. Bien sûr que le nombre du mal, c'est 6, et le nombre de Dieu, 7. Donc, là, nous avons plusieurs éléments selon l'ancienne conception. Feu, eau, terre, air. Nahum, chapitre 1, verset 3 à 6. Nous avons 4 empires mondiaux dans l'histoire du monde éloignés de Dieu. Daniel 7 et 4 évangiles, message de salut pour le monde tout entier. 3 et 4 est le nombre de l'alliance établie entre Dieu et le monde, d'où le chiffre 7. On y vient au chiffre 7. est le nombre donc de l'histoire du salut. 7 jours de création, 7 fêtes principales en Israël, Lévitique 23, 7 jours dans la semaine, 7 églises, Apocalypse 2 et 3, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 tonnerres, 7 étoiles. 3 fois 4 semble le nombre de la terre fertilisée par Dieu en tant que sa vigne et sa terre labourée, sa semence et sa moisson, le terrestre 4 multiplié par le céleste 3, la création développée et bénie par son Créateur. 12 est le nombre du peuple de Dieu, le nombre de la communion des saints. De là, 12 tribus, 12 princes, nombre 1, verset 44, 12 étoiles, Apocalypse 12, verset 1, 12 pains de proposition, 12 apôtres et 12 trônes, Saint Matthieu, chapitre 19, verset 28. La Jérusalem céleste est gouvernée par le nombre 12 parce qu'elle est la demeure de l'assemblée des rachetés. Il y a plus dans le nombre 12 000 que l'Apocalypse indique comme la mesure de la cité. 12 est multiplié par 1 000 000, résultat du nombre 10 multiplié 3 fois par lui-même, 12 fois 10 fois 10 fois 10, qui égale 12 000 selon le langage symbolique de la Sainte Bible, et donc le résultat de la multiplication du nombre du peuple de Dieu par le nombre de la plénitude et de l'accomplissement. Ceci semble donc bien indiquer que dans la Jérusalem céleste, le peuple de Dieu, l'Église universelle, aura atteint le but qui lui était assigné par Dieu dans la gloire et la plénitude. La ville est représentée comme un volume dont toutes les dimensions, Éphésiens 3, verset 18, sont gouvernées par ce même nombre, 12 000, Apocalypse 21, verset 16. C'est l'expression de la perfection, de la symétrie, donc de l'harmonie, de la gloire céleste. Le nom de Jérusalem a un sens messianique et typologique. Hébreux 7, verset 2. L'histoire de la ville en relation avec l'histoire du salut se divise en 7 périodes. La Jérusalem céleste originale, l'ancienne Jérusalem sémitique, 2300 à 2000 avant Jésus-Christ, comme le montre son nom sémitique. Jérusalem fut fondée par les sémites avant que les canaano-chamitiques, Canaan, étaient donc fils de Cham. Genèse chapitre 10, verset 6. Ils ont pris possession du pays. Genèse 10, verset 15 à 19. La Jérusalem canaano-chamitique, 2000 à 1000 avant Jésus-Christ, qui prend fin avec l'expulsion de Jébusiens chamitiques hors de la citadelle de Sion par David. 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 à 9, et Genèse, chapitre 10, verset 16. La théocratie d'Israël en Jérusalem, 1000 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ. Jérusalem foulée par les nations, 70 après Jésus-Christ, jusqu'au millénium, selon Saint Luc chapitre 21, verset 24. Et pendant cette période, la ville a été conquise plus de 20 fois. Nous aurons donc la Jérusalem messianique du millénium, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste de la nouvelle création. Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrêtons ici pour terminer par la prière. Nous aurons donc notre dernière étude de cette série, demain matin à 6 heures, Dieu voulant, C'est l'étude numéro 33 et le titre sera Le Temple de gloire. Le Temple de gloire. Chers amis, nous allons donc, comme je vous ai dit, terminer par la prière. Prions. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent dans la loi de l'Éternel. Mon âme est attachée à la poudre. Fais-moi revivre, Seigneur, selon ta sainte parole. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Ne me laisse point égarer de tes commandements. Détourne mes yeux, afin qu'ils ne regardent pas à la vanité. Fais-moi revivre par le moyen de tes voies. J'élèverai mes mains vers tes commandements. Ô Éternel, j'ai conclu que ma portion était de garder tes paroles. J'ai fait le compte de mes voies et j'ai retourné mes pas vers tes témoignages. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne rougisse point de honte. Aide-moi, tu es ma retraite et mon bouclier. Je me suis attendu à ta sainte parole. Soutiens-moi, suivant ta parole, et je vivrai. Affermis mes pas sur ta sainte parole, et qu'aucune iniquité ne domine sur moi. J'ai crié vers toi, sauve-moi, afin que j'observe tes témoignages. Éternel, tu es près de moi, et tous tes commandements ne sont que vérité. Que ma supplication vienne devant toi, et délivre-moi suivant ta parole, que ta main me secoure. J'ai été égaré comme une brebis perdue. J'ai souhaité ta délivrance, Éternel. Éternel, que mon âme vive, afin qu'elle te loue et que tes ordonnances me donnent des secours. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et je vous demande pardon. Je n'y peux rien de tout ce bruit infernal qui durera encore des mois, mais bien que j'ai 86 ans, je me lèverai à 6 heures pour faire ces études, un peu plus dans le calme tout de même. Et le Seigneur me donnera les forces qu'il veut bien me donner chaque jour. Suffit sa peine. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt à nouveau. Au revoir.